Auriez-vous la gentillesse de dire au maître d'hôtel qu'il dispose les tables et les chaises en sorte que M. Blanchet, le docteur Constantin et moi-même soyons en face de tous les voyageurs lorsque je leur dévoilerai la vérité?
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Agatha Christie est née il y a 130 ans, en 1890, dans une famille anglo-américaine. Son père rentier, bientôt désargenté, était un homme bon mais de peu d'ambition, tandis que sa mère, à la fois plus mélancolique et plus ingénieuse, a sans doute, par les histoires qu'elle inventait pour sa fille, fertilisé son imaginaire. Enfant déjà, elle aimait les trains et jouait dans le jardin avec un cerceau, en marquant des haltes à des arrêts imaginaires comme la station du parterre de Muguet ou bien le terminus de la cuve. Son enfance et sa vie, nous en avons parlé hier. Si vous avez manqué cette émission, elle est disponible sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Sur la famille et sur les origines de l'autrice du Crime de l'Orient Express, nous reviendrons certainement demain avec la psychanalyste Sophie de Mijelamayor qui a allongé l'écrivaine sur son divan, en tout cas sur un divan, dans un livre paru aux éditions de l'Esprit du Temps. Et puis jeudi, nous parlerons de la loi et du droit chez Agatha Christie ainsi que du thème de l'imposture dans ses livres. Ce sera avec Nicolas Bareille d'abord, puis en compagnie de Maxime Decoux. Et aujourd'hui,
quelle est votre méthode? C'est ce qu'ils veulent tous savoir. En vérité, je n'ai pas vraiment de méthode. Le vrai travail se fait en pensant au développement de l'histoire, en y repensant, jusqu'à ce que ce soit bon. Ça peut prendre du temps. Une fois que vous avez tous ces éléments, il ne vous reste qu'à trouver le temps d'écrire.
Voilà, ça a l'air très facile. Aujourd'hui, pour évoquer quelques caractéristiques de l'œuvre de cette écrivaine, nous sommes en votre compagnie, François Rivière. Bonjour à vous. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors je vous présente en attendant de vérifier que vous êtes bien là. Vous êtes éditeur, romancier, critique littéraire et un grand lecteur d'Agatha Christie, à qui vous avez consacré plusieurs ouvrages, comme par exemple la biographie Agatha Christie, Duchesse de la Mort, en 2001 aux éditions du Masque, ou encore Agatha Christie, la romance du crime, cette fois aux éditions de la Martinière, en 2012. Et puis vous signez également les scénarios de bandes dessinées adaptées d'Agatha Christie, certains scénarios de bandes dessinées adaptées d'elle, c'est chez EP Éditions, et vous préfacez régulièrement ses romans aux éditions du Masque. Ça fait potentiellement beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes avec nous, François Rivière?
Oui, je vous entends. Oui.
Bon, j'étais en train de dire que vous travaillez beaucoup, parce que quand on préface les romans d'Agatha Christie, on a pas mal de choses à faire. Hein.
Oui, bien sûr, mais mais c'est une occupation agréable, puis c'est une vieille passion. Donc je suis un peu maintenant habitué à tout ça.
Alors 66 romans quand même, il faut rappeler les chiffres, toujours des chiffres hein, avec Agatha Christie, 18 pièces de théâtre, 21 recueils de nouvelles, mais aussi des contes pour enfants qu'on connaît peut-être un petit peu moins.
Oui, elle a écrit un recueil qui malheureusement n'a pas été traduit en français, d'histoire chrétienne en fait, puisqu'elle était née sous l'étoile de Bethléem, comme il disait, et elle a écrit un recueil de petites histoires et de poèmes. Mais effectivement, on n'a pas jugé bon ici de la traduire, ce qui est dommage, parce qu'on a quand même traduit tous ses livres. On n'a pas non plus traduit toutes ses pièces. Hein. Il y a encore des choses à faire.
Est-ce qu'on a raison de garder des choses non traduites? Par exemple, ses contes pour enfants, ils vous semblent vraiment intéressant?
Je crois que ça n'aurait pas un grosse audience en France, de même que ça n'a pas eu non plus énormément de l'autre côté du Channel. Ces poèmes qui n'ont pas non plus donc été traduits, son recueil de poèmes, elle l'a fait à deux reprises. Elle a publié dans un premier temps, dans les années 20, un premier recueil qui contenait un roman, un poème tout à fait étonnant sur les poisons, mais qu'elle a enlevé dans la seconde édition, peut-être parce qu'elle avait un peu peur qu'on le juge mal. Donc tout ça, bon, c'est vrai que c'est peut-être plus pour un public anglo-saxon. Au fond, ça, le crime fait peut-être encore peur en France, c'est possible.
Est-ce qu'elle fait partie de ces auteurs et autrices qui sont assignés à un genre et à qui on ne fait finalement pas crédit d'un autre type de littérature ?
Si on en juge par le peu de succès qu'ont eu ces romans publiés sous pseudonyme, sous le nom de Mary Westmacott, les six romans psychologiques d'une qualité inégale hein, qu'elle a publié entre les années 30 et les années 50, on peut se dire qu'au fond, on a voulu faire d'elle vraiment l'archétype de l'auteur de romans de détection et rien d'autre. C'est vrai que c'est là qu'elle s'est vraiment accomplie le plus, même si certains romans. Je crois qu'hier vous citiez un de ses livres qui s'intitule en français Musique barbare, qui est un très beau roman non policier où elle raconte la vie d'un jeune compositeur de musique moderne dans les années 30. Enfin, un roman tout à fait étonnant. Ou un autre roman qu'elle a écrit en 3 jours qui s'intitule Loin de vous ce printemps et qui est l'examen de conscience d'une femme qui se retrouve perdue dans le désert parce que le train qu'elle a pris pour aller jusqu'à Bagdad est tombé en rade. Tout ça, c'est très beau. C'est du roman psychologique de qualité moyenne, si on peut dire. Mais c'est quand même ça vaut le détour, quoi. Et ça montre qu'elle savait faire autre chose que raconter les enquêtes d'Hercule Poirot de Miss Marple. Voilà.
Puis il y a quand même l'autobiographie François Rivière, qui est un livre amusant, émouvant même par bien des aspects. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel de ce livre ?
Moi, j'ai attendu la parution de son autobiographie avec beaucoup d'impatience, persuadé qu'elle allait enfin nous raconter ce qu'elle avait vécu pendant une dizaine de jours en 1926, quand elle a disparu mystérieusement. Or, elle n'en parle absolument pas. Et elle fait dans ce livre, qui est une sorte de gros roman victorien, en fait, hein, c'est son plus long livre, elle fait un petit peu comme dans Le meurtre de Roger Ackroyd, d'une phrase à l'autre, on enjambe ce qui donnerait la solution de l'énigme. Je pense que c'est quand même un petit peu fabriqué, et qu'elle a voulu aussi faire un peu aussi ce que faisait ce qu'ont fait tous les écrivains de renom, ce qu'elle était, bien sûr, c'est-à-dire raconter sa vie, donner un peu en exemple, montrer l'accomplissement.
Ah, alors il est très possible que nous ayons perdu François Rivière. Nous sommes en train de tenter de le récupérer. Je vous propose d'écouter tout de suite une toute petite archive, le temps de le rappeler.
Il y a toujours un cap de 3 semaines ou 1 mois terrible à franchir quand on essaie de commencer une nouvelle histoire. C'est vraiment l'angoisse. Vous restez dans votre coin à mordiller votre crayon, à contempler votre machine à écrire, à arpenter la pièce, à vous laisser choir sur un sofa avec l'envie de pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais il semble obligatoire de passer par cette phase de souffrance. C'est un peu comme mettre les furets pour faire sortir le lapin de son terrier. Tant que vous n'aurez pas subi cette turbulence souterraine, vous ne reviendrez pas à la normale. Soudain, pour une raison inconnue, un starter intérieur vous donne le signal du départ. Vous commencez à fonctionner. Vous sentez que le brouillard se lève. Vous découvrez en fait que ça vient. «
Une lecture de l'autobiographie, justement, d'un extrait de cette autobiographie par Guillaume Gallienne, François Rivière, qui me conduit à la question, évidemment, de la fabrication un petit peu des livres d'Agatha Christie. Alors, on a souvent cité ce propos qu'elle aurait tenu elle-même auprès d'un journaliste. Elle aurait dit « Je suis une machine à faire les saucisses, une parfaite machine à saucisses tout de même ». Est-ce qu'elle n'avait pas tendance à déprécier un petit peu son travail ?
Bon, j'ai l'impression quand même que cette phrase est authentique, qu'elle n'est pas apocryphe, contrairement à celle où elle disait épouser un archéologue, plus vous vieillirez, plus il vous aimera.
Vous n'y croyez pas à celle-là.
Là, j'y crois. Non, on sait qu'elle a été inventée par un écrivain anglais et journaliste qui s'appelait Beverley Nichols, qui était une mauvaise langue, qui a d'ailleurs passé son temps à dire du mal des écrivains, des grands écrivains.
Mais elle avait de l'humour, elle aurait pu dire quelque chose un petit peu de ce type, non ? Alors, ce bruit que j'entends me signale que vous avez encore disparu et que donc nous allons devoir tenter de vous rappeler une nouvelle fois.
Elle disait toujours qu'au fond, elle aurait aimé être une romancière à la hauteur d'un Graham Greene ou d'une Elizabeth Bowen qu'elle adorait. C'était deux écrivains qu'elle aimait beaucoup. Elle savait très bien qu'elle faisait de la littérature de consommation courante, enfin de la littérature de gare, au point même que quand elle prenait le train à Paddington pour aller dans sa maison de campagne, elle se plaignait qu'à l'aubette où on vendait des livres, on ne trouvait que les siens, donc elle ne pouvait même pas acheter de quoi lire pendant le voyage. Donc elle savait très bien où elle était, où ce qu'elle faisait. Elle estimait même qu'elle était, comme on dit en anglais, là au bras, c'est-à-dire un peu bas de gamme, quoi, dans le domaine de l'écriture. Et ça, c'est intéressant à considérer, parce que justement, elle n'avait pas du tout la prétention d'être une styliste. C'était quelqu'un qui écrivait, c'était une conteuse.
Mais pourtant, ce sont quand même de bons romans, non ? Sur le plan de l'intrigue, évidemment, mais enfin aussi peut-être sur le plan de la caractérisation des personnages, de leur psychologie, des décors, de la description des décors.
Ça tient très bien, ça tient très bien. Et les personnages sont très crédibles, ils sont ajustés parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop, il n'y a pas d'études psychologiques très 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 poussées, ce qui est encore moins poussé sont les situations, les décors, etc. Bon, et justement, ça facilite la lecture. On en arrive tout de suite à la chose essentielle, qui est la structure du récit, quoi, la manière dont l'auteur vous emmène ou promène du début à la fin. Elle-même disait qu'elle savait même pas toujours qui serait le coupable, quelle était la première surprise de trouver qu'au fond ça allait être le médecin ou le dentiste plutôt que quelqu'un d'autre, parce que justement c'est un jeu, elle menait un jeu, et comme elle avait beaucoup lu déjà très jeune, qu'elle avait vraiment son métier de raconteuse d'histoire, elle le maîtrisait parfaitement, du coup ça colle très bien. Mais d'un roman à l'autre, on se rend compte qu'elle a une écriture qui varie, qui est maîtrisée, très maîtrisée, mais pas forcément dans l'excellence de l'écriture, quoi. Elle essayait pas de peaufiner son style. Au fond, elle avait pas vraiment de style, hein. Elle était par exemple fascinée aussi par un auteur qui était l'humoriste P.G. Woodhouse, parce qu'elle trouvait qu'il avait un talent pour la construction de ses histoires extraordinaire. Mais au fond, elle savait parfaitement, enfin, je reviens à ce que je disais, elle savait parfaitement à quel niveau elle se situait et à quel genre de lecteur elle s'adressait.
Mais du coup, cette idée que vous développez, qu'elle ne savait pas forcément où elle allait et qui serait in fine le meurtrier, va un petit peu à l'encontre de cette idée qu'on a qu'au fond, les romans d'Agatha Christie sont une mécanique de précision et que dès le départ, elle sait exactement où elle va emmener son lecteur.
Oui, alors effectivement, elle était un peu en contradiction avec elle-même, parce qu'elle avait dit aussi un jour, mais peut-être de manière étourdie, elle avait dit « Je commence toujours mes romans par le dernier chapitre ». Alors, ça correspond pas du tout à ce qu'on a découvert, et ce qui confirme ce que je vous disais plus haut, à savoir qu'elle ne savait pas trop où elle allait, elle cherchait, c'est confirmé donc par ces fameux carnets, ou petits cahiers même, où elle consignait ses idées de romans, qu'elle mûrissait longuement, parce que certains cahiers montrent qu'elle a cherché une idée, enfin qu'elle a travaillé une idée de roman pendant plusieurs, non seulement plusieurs mois, mais quelquefois plusieurs années. Donc, qu'elle cherchait, elle écrivait même dans ses carnets, machin et le coupable, c'est pas machin, c'est truc. Elle évoluait elle-même pas mal. Alors, après, dans l'écriture, peut-être qu'à un moment, moment où ça se stabilisait vraiment et où elle pouvait effectivement écrire le dernier chapitre, une fois qu'elle avait vraiment saisi son combat, qu'elle l'avait arrêté elle-même, si on peut dire, elle pouvait, mais c'est quand même toute une mécanique qui, autant peut-être dans un roman comme Dix petits nègres, pardon pour le titre,
elle mais pouvait... Maintenant on dit ils étaient 10.
Oui, on n'a plus le droit de dire, moi je vais être le seul à continuer à dire Dix petits nègres, je pense, pendant des années encore, et elle pouvait justement construire toute son histoire comme ça, d'emblée, autant dans certains romans qui sont souvent...
Alors, de nouveau, je crois que nous avons un problème de liaison, ça risque d'être comme ça. Pendant pas mal de temps, nous allons nous rabattre, si l'on peut dire, sur une archive que de toute façon, nous aurions écoutée.
Est-ce que vous mettez en scène des gens qui existent réellement? La réponse est que, pour moi, il est impossible d'utiliser quelqu'un que je connais, à qui j'ai adressé la parole ou même dont j'ai entendu parler. D'une certaine manière, ces personnes m'apparaissent comme dépourvues de toute vie romanesque. Les silhouettes à peine entrevues me sont d'une plus grande utilité parce que je peux leur faire endosser toutes les qualités que mon imagination s'ingénie à produire. C'est ainsi qu'une personne infirme est devenue le pivot de l'action de ce livre. Le colonel et Mrs. Bantry, ses vieux amis le Miss Marple, possédaient exactement le genre de bibliothèque dont j'avais besoin. Il ne me restait qu'à y ajouter, comme dans une recette de cuisine, un tennisman, une jeune danseuse, un artiste, une jeune fille, une hôtesse, etc., puis à servir à la Miss Marple.
De l'autobiographie d'Agatha Christie. Nous sommes de nouveau avec vous, François Rivière. Alors, ce n'est pas une machine à fabriquer les saucisses, hein, malgré tout, et contrairement à ce qu'elle disait elle-même, Agatha Christie, elle est aussi prise dans les affres de la création, mais simplement, on a l'impression qu'elle a vraiment envie de faire croire que son travail n'est pas fastidieux, que c'est même très agréable. Et dans votre biographie, François Rivière, vous citez justement un texte assez éloquent de ce point de vue, à propos de son métier. Ce sont au métier d'autrice. C'est un texte qu'elle envoie à ses lecteurs français. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête. Elle parlait un petit peu comme à des enfants, à ses lecteurs français du masque, pour expliquer à quel point, finalement, c'était facile d'écrire un roman d'Agatha Christie.
Oui, je crois qu'elle se moquait un peu des gens à ce moment-là, quand elle disait ça. Elle parlait effectivement à ses lecteurs français pour ne pas leur faire peur. Pour faire passer finalement le fait qu'elle, au fond, qu'elle travaillait, mais comme n'importe quel romancier qui jamais n'avouera exactement à quel prix il a réussi à terminer, à accomplir le cheminement d'un roman, surtout un roman policier. Bon, elle commençait.
Bon, eh bien, nous allons peut-être essayer de vous rappeler par téléphone, parce que là, vraisemblablement, la 4G ne fonctionne pas très bien chez vous. Alors, en attendant, on va écouter quelques notes de musique. Vous écoutez France Culture et la compagnie des auteurs. If you haven't been murdered, I can only say better luck next time. Voilà, toutes nos excuses, chers auditeurs, comme on dit, pour ces problèmes qui empêche que cette émission soit tout à fait fluide. Nous vous avons retrouvé François Rivière pour parler toujours d'Agatha Christie. Nous étions en train de parler de cette lettre que elle avait envoyé, de ce texte qu'elle avait envoyé donc à ses lecteurs français, texte où elle disait aussi d'ailleurs que son rêve c'était de chanter à l'opéra et pas d'écrire des romans, mais que ça n'avait pas marché, sa voix était trop grêle et donc pour cette raison elle s'était mise à écrire des histoires de polar. Alors son œuvre, vous dites François Rivière qu'elle vit son œuvre et aussi qu'elle vit de son œuvre. Alors qu'elle vive de son œuvre, ça on comprend un petit peu pourquoi, mais est-ce que son œuvre aussi vit d'elle, c'est-à-dire à quel point est-ce que l'autobiographie existe chez Agatha Christie, cette femme qui semble quand même se cacher beaucoup?
Elle se cache, enfin elle s'est cachée beaucoup à partir du moment où lui est arrivé cette petite, ce sale épisode de sa vie qui a été la séparation avec son mari, enfin le fait que son mari demande le divorce et qu'elle fasse cette fugue sur laquelle on a beaucoup parlé, glosé.
Vous pensez que ça l'a changé radicalement?
Ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que elle a été l'objet d'un fait divers qui a quand même dont toute la presse a parlé et dont toute l'Angleterre a été informée. L'Angleterre et même les États-Unis, on en parlait dans les journaux américains. En France, non, mais du coup, ça l'a rendue extrêmement timide, réservée. Enfin, elle a plus voulu voir de journalistes, et ça l'a rendue aussi, ça en a fait une femme mystérieuse. Le fait d'avoir été la romancière de mystère qui disparaît, ça donnait quand même un personnage curieux, enfin intéressant. Je pense que c'est pas l'origine, mais ça jouait dans le succès qu'elle a eu à partir du moment où, en plus, ça arrivait au moment où elle venait de publier le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un roman qui n'a pas eu un succès considérable, mais qui était quand même déjà un peu en rupture avec le genre, sur lequel elle innovait quelque chose, elle trompait, elle trichait, comme on l'a dit même, avec les règles sacro-saintes du roman en question, et du coup, ça en faisait déjà un peu une marginale, et de marginale, elle est devenue l'auteur principal, enfin, elle est devenue l'auteur vedette du roman d'énigmes anglais, tout en ne parlant jamais, tout en ne s'adressant jamais à personne, à aucun journaliste, tout en restant vraiment mystérieuse jusqu'au bout. Enfin, autant les auteurs, souvent, même à cette époque, quand même, s'est penché pas mal dans les journaux, répondaient à des... Elle a accepté de faire partie d'un club qui s'appelait le Detection Club, mais c'était vraiment, j'allais dire, à son corps défendant, parce qu'elle prenait jamais la parole, elle était pas du tout, elle était extrêmement, extrêmement secrète. Mais ça a joué en sa faveur, en tant qu'auteur, justement.
Alors justement, il faut parler un peu de ce livre, Le meurtre de Roger Ackroyd, qui date donc de 1926. C'est d'ailleurs le titre qui inaugure la collection Le Masque, créée par Albert Pigas en 1927. C'est un roman que vous avez préfacé, hein, d'ailleurs, en 2017, à ces mêmes éditions du Masque, François Rivière. Et alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que, contrairement à ce qu'elle souhaite qu'on croie, qu'elle n'est pas du tout une intellectuelle, et bien finalement, elle fait un roman qui va intéresser quelqu'un comme Barthes, et que Barthes va analyser dans le degré zéro de l'écriture. Alors ça, c'est un peu paradoxal quand même.
Ben oui, c'est paradoxal, mais enfin, ça, elle n'est pas responsable de tout ce qu'on a pu écrire sur elle.
Non, mais ça veut dire qu'elle donne de la matière aux intellectuels, donc ça ne doit pas être quand même complètement dénué justement de cérébralité, ces romans.
Absolument, mais c'est le cas de Jules Verne aussi, hein, qui a écrivé des romans qu'on a cru cryptés, qui est un autre écrivain comme Raymond Roussel a imaginé coder, etc., et sur lequel on s'est beaucoup penché dans les années 60, etc., et c'est tout à fait normal, hein, moi j'ai rien contre le fait d'analyser, de disséquer les romans, mais là, dans le cas de Roger Ackroyd, bon, elle joue un tour au lecteur, mais elle crée effectivement aussi une espèce de structure romanesque qui ne pouvait qu'interroger les gens, notamment dans les années 50, 60, au moment du le nouveau roman, par exemple, ou des thèses qui ont pu être écrites, enfin sur les structures justement du roman policier. Bon, moi j'ai fait partie de ce qu'on a appelé l'Oulipo-Po, qui était une section de l'Oulipo consacrée justement au décodage des romans d'énigmes combinatoires, comme on dit, du genre. Effectivement, je pense que elle, de manière
pas innocente complètement, mais quand même un peu naïve dans ses romans, à manipuler complètement ces fameuses combinatoires du roman de mystère, sans imaginer bien entendu qu'un jour ça intéresserait des gens. Et au fond, ce qui est fascinant chez les auteurs apparemment naïfs, justement, apparemment, enfin, l'auteur de romans populaires, c'est ce qu'ils peuvent amener à d'autres écrivains plus cérébraux à penser d'eux, enfin, voilà.
Et oui, parce que Barthes disait au sujet du meurtre de Roger Ackroyd que c'était un parfait exemple d'écriture masquée. Alors là, ceux qui n'ont pas lu le livre doivent s'éloigner un petit peu de la radio, car nous allons révéler quelque chose. En fait, le lecteur cherche l'assassin derrière tous les « ils », les troisièmes personnes qui sont présents dans ce roman, alors que c'est sous une première personne qu'il se dissimule, puisque l'assassin, c'est je n'ose même pas le dire. C'est le narrateur.
Pas le dire. Oui, bien sûr, c'est le narrateur.
J'ai pris des précautions.
Ça avait été fait dans un roman policier allemand, mais bien avant, un roman de Léo Perutz. Mais l'idée est qu'effectivement, c'est un peu comme au théâtre, si le détective est l'assassin, hein, c'est un peu la même chose. Mais là, effectivement, elle a joué quand même très habilement en passant d'un moment à un autre au début du roman, d'une phrase à l'autre, enfin d'un paragraphe à l'autre, dissimuler un moment de temps, enfin elle escamotait un moment où qu'est le moment justement où le crime a été accompli, et ça c'est très fort, mais on peut toujours se dire qu'elle était un espèce de génie de la fiction policière, mais au fond c'est aussi juste un jeu, quoi. Elle, je pense qu'elle jouait énormément en écrivant et ça fonctionne très bien, quoi.
Agatha Christie est probablement l'auteur qui a inventé le plus de situations énigmatiques et les plus originales, parce qu'elle est venue la première, si vous voulez. Quand on a inventé Dix petits nègres, on a coupé l'herbe sous le pied à plusieurs générations d'écrivains policiers. Comment voulez-vous qu'ils reprennent ce truc-là, n'est-ce pas? Et on peut dire ça de beaucoup de ses livres.
Je crois qu'on peut dire que Agatha Christie a marqué l'apogée du roman problème,
oui,
mais presque son agonie, presque sa fin. Car oui, il est difficile maintenant de créer des thèmes qui n'aient pas déjà été exploités par elle. Tu citais Agatha Christie, il y a les Dix petits nègres, il y a ABC contre Poirot,
oui,
la série de crimes qui sont commis uniquement pour en noyer un, le criminel, tu vois, 5 ou 6 personnes en supplément, en prime presque pour noyer le poisson, a été repris du reste depuis Agatha Christie, n'est-ce pas?
Oui,
mais immédiatement on se dit, c'est d'Agatha Christie.
Exactement.
L'astuce du crime de l'Orient Express, c'est d'Agatha Christie, on pourrait en citer comme ça une trentaine, qui sont absolument épuisés maintenant, et même en renouvelant la sauce, je crois qu'on ne pourra pas arriver à les faire passer pour des idées originales.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cette archive de Pierre Boileau et Thomas Marsejac. Diriez-vous comme eux, François Rivière, que Agatha Christie a tué le genre du roman à intrigue, qu'elle l'a totalement épuisé?
Bah, eux, ils se sont mis à deux pour tuer le roman de suspense psychologique, enfin le roman de la victime, comme ils l'ont appelé. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Boileau et Marsejac. J'aimais beaucoup Pierre Boileau, qui lui avait des idées. C'est lui qui avait des idées, en fait, des idées d'intrigue qui ont donné quand même des romans portés à l'écran, notamment ce qui a donné le film de Clouseau. Puis après, Vertigo, Hitchcock, il avait de très bonnes idées. Et le drame, c'est que Marsejac écrivait de manière, se voulait romancer psychologique. Et à mon avis, ça a fichu en l'air un peu le...
Comme quoi, il faut vraiment rester dans son couloir, hein, quand on fait du roman à suspense, c'est ça?
C'est un peu ce que je pense, oui. Alors que d'autres auteurs ont fait des choses peut-être plus bas de gamme, enfin plus ras des pâquerettes, mais il faut être efficace, effectivement, et Agatha Christie, elle, était extrêmement efficace, et c'est pour ça peut-être que ses romans durs, moi, pour Boileau, je leur veux pas de mal, vraiment, enfin, quoi que je suis en train d'en dire, mais leurs romans, je sais plus qui les lit, quoi.
Mais est-ce que c'est vrai, du coup, qu'après Agatha Christie, on ne peut plus utiliser, même si ça a été fait, ce même type de chute, ce même type de truc?
Ben, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on continue quand même à écrire des romans d'énigmes, mais qui sont beaucoup plus sophistiqués maintenant. C'est-à-dire que c'est moins le juste jeu, quoi, le petit jeu comme ça de, j'allais dire, de société, quoi, le jeu qu'on pratique en famille presque. On cherche beaucoup plus d'implications psychologie psychanalytique. La psychanalyse, évidemment, est rentrée dans le jeu il y a déjà un moment. On essaie de compliquer les choses, et je me demande si c'est vraiment bien. Mais on ne cesse pas quand même d'écrire, de repousser les règles du genre, enfin, les limites du genre, alors qu'au fond, elle est allée elle-même déjà jusqu'au bout. Enfin, de la manière la plus simple, la plus efficace et surtout la plus pérenne, quoi, parce que ça vient quand on voit le succès qu'elle continue à avoir. Enfin, peut-être que c'est devenu une mode, je sais pas, qu'on lit Agatha Christie parce que il faut la lire,
mais justement, comment vous expliquez que lire un livre d'Agatha Christie, ce n'est pas tout à fait seulement lire un livre à énigmes, c'est quand même un petit peu autre chose, et on y prend un plaisir quand même plus grand. Qu'est-ce qu'elle a en plus ?
Ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle reflète, enfin, dans ses romans, une époque qui est, parce qu'au fond, elle est quand même terriblement nostalgique de l'époque victorienne, dont elle n'a vécu que les dernières années. Enfin, même si la vie de type victorien, si on peut dire, a quand même perduré bien après la mort des victoriens, elle reflète toute une Angleterre traditionnelle, toute une la province anglaise, les mœurs anglaises, enfin, toute une manière d'être à la fois un peu hypocrite, un peu...
Attention, nous avons des auditeurs anglais.
Et finalement, je pense qu'au fond, c'est ça qu'on aime. Enfin, on l'aime quand on rentre, comme quand on entre dans une brocante et qu'on on a les yeux qui s'embuent à la vue de reliques du passé. Enfin,
le passé, ça peut être la belle époque, mais ça peut être aussi l'entre-deux-guerres. Il y a un côté un petit peu art déco, un petit peu Fitzgeraldien chez Agatha Christie. Vous ne trouvez pas, François Rivière?
Oui, il y a ça aussi, mais je me demande si la série télé avec David Suchet n'a pas forcé un peu le trait sur le côté art déco, justement, sur le côté années 30, même si, effectivement, elle a quand même balayé plusieurs époques, hein, notamment, justement, les années 30, qui sont les années où elle a publié ses romans les plus accomplis, un roman comme Le Vallon, justement, que je considère vraiment comme un de ses chefs-d'œuvre. C'est vraiment typiquement la vie des nouveaux riches anglais à la campagne dans les années 30, justement, parce qu'elle se moque quand même pas mal aussi des gens qui ont un peu franchi les limites justement des victoriennes et qui se permettent des choses qui sont plus modernes, etc. Alors qu'elles-mêmes au fond étaient restées, enfin, même si elle a un peu fait autre chose, mais très très proche quand même de son éducation première. Enfin, même si après elle a voyagé, etc. Elle est devenue déjà les victoriens voyageaient. Donc au fond il y a une espèce d'Angleterre éternelle qui se profile chez elle, et je crois que quand on la met en scène, justement, notamment au cinéma ou à la télévision, on lui colle une imagerie qui n'est pas forcément totalement fidèle, quoi.
Mais justement, alors, ces milieux mondains superbement snob qu'elle décrit, cela ne rebute pas du tout le lectorat, qui pourrait pourtant se sentir un petit peu exclu, mais pas dans son cas.
Non, mais parce que c'est agréable à voir, enfin, je pense que c'est agréable à regarder... Ça amuse un peu, on a l'impression que il y a un côté un peu irréel, finalement, qui est peut-être aussi rassurant. Je pense qu'elle est rassurante, hein, ce qui est là totalement paradoxal, puisqu'elle montre quand même des gens qui s'entretuent, et qu'elle-même n'avait peut-être pas une idée de la chose, enfin de la vie notamment de couple, puisqu'elle montre beaucoup de couples qui se déchirent, enfin de familles qui s'entretuent. Elle-même a vécu quand même de manière assez difficile, hein, avec un premier mari qui l'a trompée et un second mari qui lui aussi finalement a eu une maîtresse et c'est un peu détaché d'elle, qui était une femme tellement finalement peut-être assez difficile à suivre, assez compliquée, sa propre fille, elle a eu qu'un enfant, une fille, Rosalinde, avec qui elle a eu beaucoup de problèmes. Hein. Moi, je trouve que j'ai connu un peu Rosaline, mais j'ai connu surtout la fille de sa meilleure amie qui m'a raconté ce qu'avait été vraiment cette disparition, cette fameuse fugue, contre la version officielle de l'amnésie qui tient absolument pas debout, qui me disait qu'au fond, elle était très malheureuse, quoi. Catherine avait été très malheureuse. Alors bon, ça fait un peu... Là, on entre dans un truc un peu... pas très passionnant, mais je pense que curieusement, ce qui est rassurant chez elle, au fond, c'est ce qui inquiétait elle peut-être intérieurement. Ouais.
Donc cette fugue, c'est le symptôme de quelque chose d'autre, c'est ce mystère qu'elle essaye de cacher par tous les moyens, y compris dans son autobiographie, et ce serait donc une profonde mélancolie ?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de mélancolie, parce que la vie dont elle avait rêvé quand elle était jeune, quand elle était enfant, elle avait encore la joie, la chance d'avoir son père qui est mort quand même un peu vite, quoi, quand elle avait 11 ans. Et puis son adolescence, où elle arrivait, de devenir cantatrice, etc., où tout était merveilleux, mais où tout se cassait de la figure. Elle s'est réfugiée dans ce qu'elle a su très bien faire, quoi, qu'est ce métier, parce que c'est quand même un étrange métier, hein, de vivre et de connaître le succès en écrivant des histoires où les gens s'entretuent, où les gens accomplissent des vengeances, parce qu'il y a quand même ce thème récurrent, obsédant dans ces livres de la vengeance. C'est pas le cas dans tous les romans policiers, hein, on peut lire. Un de ces romans s'intitule Némésis, quand même. Bon, Osé, c'est la seule romancière, à mon avis, avoir osé écrire un roman sous ce titre de la vengeance. Tout ça, ça montre, oui, qu'elle...
Je me demande s'il n'y a pas Philip Roth aussi, mais il faudrait vérifier.
Oui, c'est possible. C'est possible, mais on comprend mieux. Ben lui, il a accompli durablement dans ses livres, mais il s'est vengé autrement. Elle, au fond, était plus retenue, quoi. C'était justement là encore la morale victorienne qui la corsetait, quoi, qui l'empêchait peut-être d'aller jusqu'au bout. Elle aurait pu écrire peut-être des livres beaucoup plus noirs, en fait. Hein. Mais la noirceur, elle est en filigrane. Quoi.
Il y a de la noirceur et puis il y a de l'humour quand même aussi. Il y en a beaucoup. Je vous propose d'écouter cet extrait de ce livre dont on parlait un peu plus tôt, Le meurtre de Roger Ackroyd.
J'ai un certain goût pour le jardinage. Et je m'appliquais à arracher des pissenlits quand un cri d'avertissement retentit tout près de moi. Un objet pesant me frôla les oreilles et s'écrasa à mes pieds dans un gargouillis répugnant. Une courge. Je levai la tête furibond. Un visage se montra par-dessus le mur sur ma gauche. Un crâne en forme d'œuf partiellement planté de cheveux d'un noir suspect, une invraisemblable moustache et une paire d'yeux scrutateurs. C'était notre mystérieux voisin, Monsieur Porrot. Il se confondit en excuses. « Mille regrets, monsieur, je suis absolument impardonnable. Cela fait quelques mois que je m'adonne à la culture des cucurbitacées, et voilà que ce matin, je les ai prises en aversion et les envoie promener en pensée et en action. J'ai donc empoigné la plus grosse et les jeté par-dessus le mur. Je suis affreusement confus, monsieur, j'implore votre pardon. » Ma colère ne résista pas à ce déluge d'excuses. Après tout, ce malheureux légume ne m'avait pas touché. L'essentiel était que notre nouveau voisin ne prit pas goût au lancement des cucurbitacées par-dessus les murs. J'espérais sincèrement que ce ne serait pas le cas. C'était là un procédé qui ne pouvait faciliter nos rapports de voisinage. L'étrange petit homme parut déchiffrer mes pensées. « Rassurez-vous, s'exclama-t-il, je n'ai pas pour habitude d'agir ainsi. Mais trouvez-vous croyable, monsieur, qu'un homme se donne tant de mal pour atteindre un certain objectif, à savoir le moment où il pourra occuper ses loisirs à sa guise, qu'il sue sang et eau pour y parvenir, et qu'une fois ce but atteint, il regrette le bon vieux temps et les activités qu'il se croyait si heureux d'abandonner ? Oui, répondis-je après réflexion. J'estime le phénomène assez fréquent. Il se peut même que ce soit mon cas. Il y a un an, j'ai fait un héritage suffisant pour me permettre de réaliser un vieux rêve. Voyager... voir le monde. Et bien, comme je vous l'ai dit, cela date d'un an, et je suis toujours là. Le petit homme hocha la tête. Les chaînes de l'habitude. Nous travaillons en vue d'un but précis, et celui-ci atteint, nous découvrons à quel point notre tâche quotidienne nous manque. Et notez bien, monsieur, que mon travail était particulièrement intéressant, le plus intéressant qui soit au monde. Dans un accès d'humeur carolinienne, et résolu à lui pardonner ses gallicismes, je l'encourageais à poursuivre. « Ah oui ? Je parle de l'étude de la nature humaine. Oh. »
C'est vrai qu'il y a l'histoire qui est racontée, il y a l'intrigue, mais il y a aussi, François Rivière, un certain ton qui est fait d'humour, de décalage, on l'a bien entendu dans cet extrait du meurtre de Roger Ackroyd. Est-ce que c'est pas ça aussi quand même un livre d'Agatha Christie, le sentiment d'être accompagné par quelqu'un qui nous raconte avec sa propre personnalité une histoire à la limite du fantasque qui a quelque chose comme ça d'un petit peu entre deux tons, entre deux choses.
Oui, elle avait gardé un peu ce côté qu'elle avait sûrement adolescente, un peu vacharde, un peu comme ça, un peu sarcastique, ce qui faisait qu'elle avait le goût justement de en tant qu'auteur d'histoire méchante un peu quand même sous un ton acidulé comme ça en apparence elle balançait quand même des choses, elle jugeait quand même le monde. Bon, elle est née dans une province anglaise. Après, elle a vécu à Londres. Elle aimait pas du tout les milieux mondains, etc. En fait, elle se défiait beaucoup, elle se méfiait beaucoup de tout ce qui aurait pu nuire au fond à ce qu'elle était, à sa formation, enfin, de jeune fille qui avait beaucoup d'ambition, qui était très 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 gourmande finalement de tout de la vie. Mais qui avait été déçu très vite dès son premier mariage, dès les premières années de son mariage.
Mais ce côté acide, c'est peut-être aussi dans le choix du nom de son personnage principal, Hercule Poirot. C'est quand même un drôle de nom.
Oui, alors ça, on s'est perdu en conjecture. La biographe officielle d'Agatha, qui s'appelle Janet Morgan, qui est une journaliste parlementaire, donc je me demandais pourquoi, et alors elle m'a fait l'honneur, le privilège, quand elle a écrit son livre, de dire que j'avais sans doute raison, parce que j'avais dû l'écrire vraiment bien, mon premier livre, de dire que c'est parce que Poirot, ça lui faisait penser au mot français pour leek, un poireau, le légume, en fait, et que c'était vraiment, et là, c'est de la dérision, hein. C'est-à-dire que c'est le côté Agatha qui aimait beaucoup la France, la gastronomie française en fait, peut-être plus que le reste. Elle se trouvait amusant d'appeler un personnage Poirot. Au fond, elle l'a peut-être pas non plus imaginé en pensant que ça allait durer longtemps, quoi. Oui. Or, le Poirot lui survit encore allègrement.
Et pourtant, elle a voulu le tuer. Elle l'a tué même, hein, puisque le New York Times a publié une nécrologie d'Hercule Poirot. Alors pourquoi est-il belge d'ailleurs? Pourquoi n'est-il pas anglais tout simplement?
Bah, je crois qu'il est pas anglais parce qu'elle a dû dire qu'elle allait pas faire un nouveau Sherlock Holmes, mais je pense aussi qu'elle s'est dit qu'un personnage continental, comme on dit quand on est anglais, permettrait de lui coller peut-être beaucoup plus de défauts, enfin, de côté pittoresque. Elle aurait pu en faire un Italien aussi. Elle aurait pu, voilà, elle en a fait un Belge, au fond, on ne sait pas pourquoi, hein, on l'a jamais vraiment dit. Sinon que oui, s'il y a une raison qui semble un peu folklorique, à savoir qu'il y avait des réfugiés belges à Torquay, là, de sa ville natale, pendant la guerre de 14, mais enfin, je pense pas que ce soit la seule raison. Mais elle a créé, souvent, on crée des personnages de fiction comme ça dans un élan, et puis, on persuadait que ça va durer 5 minutes, et puis en fait, ça dure toute une vie.
Oui. Miss Marple a été peut-être davantage réfléchie, parce qu'elle avait vu que Poirot pouvait durer très longtemps, et donc quand elle invente Miss Marple, que peut-être vous préférez d'ailleurs, hein, en tant que personnage, je ne sais pas, François Rivière, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de Miss Marple?
Ah bah oui, moi je préfère, oui, enfin je la préfère, je trouve qu'elle est plus, elle tient plus le choc, plus que Poirot qui est absurde, enfin un personnage complètement absurde, mais drôle bien sûr, mais parce que Miss Marple, je pense, ou alors elle l'a peut-être dit, hein, qu'elle lui a été inspirée par justement la sœur du narrateur de meurtre de Roger Ackroyd, la sœur du docteur Shepard, Caroline, qui est un très beau personnage justement, de vieille fille, la vieille punaise de village, comme on dit, hein, qui est en canne, qui est au courant de tout, qui compare les gens très habilement, justement, qui est aussi une grande lectrice, comme l'était Agatha Christie, de ce journal du dimanche qui s'appelait le News of the World, qui a malheureusement disparu, où il y avait tous les faits divers sanglants possibles et imaginables que les Anglais adorent lire. Et Caroline Shepard a donné cette idée de plus tout ça conjugué au souvenir de la grand-mère, d'une des deux grand-mères d'Agatha Christie, qui l'a beaucoup beaucoup inspirée, hein, qui elle pour le coup peut être considérée comme une instance génératrice de l'œuvre, si on peut dire.
Il est difficile de dire dans quelles circonstances est né le personnage d'Hercule Poirot. Et je me rends compte aujourd'hui que cette apparition n'est certainement pas intervenue dans les conditions qu'il aurait lui-même souhaitées. Quelle sorte d'homme devait-il être? Un petit bonhomme, peut-être, avec un nom un peu grandiloquent. Hercule quelque chose. Hercule Poirot. Oui, cela irait. Je le voyais très soigné, très ordonné. Peut-être parce que je suis moi-même quelqu'un d'horriblement désordonné. Voilà quelle était l'idée générale. Vous remarquerez qu'il ne s'agissait que d'éléments extérieurs. Mais certains traits de son caractère en découlèrent presque automatiquement. Comme beaucoup de petits hommes, aux allures de dandy, il serait un peu prétentieux et arborerait évidemment une moustache avantageuse. À vrai dire, je dois admettre que nous avons été quelquefois en froid. Il y a eu des moments où je me suis demandé pourquoi diable a-t-il fallu que j'invente ce petit être détestable, pompeux et fatigant. Perpétuellement en train de tout rectifier, de faire l'important en frisant sa moustache avec une inclination de sa tête en forme d'œuf. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette tête en forme d'œuf? Et quand les gens me demandent dans quel sens est posé l'œuf, est-ce que je le sais? C'est vrai, il y a eu des moments où j'ai trouvé M. Hercule Poirot vraiment très antipathique et où je me suis révolté à l'idée de rester enchaîné à lui pour la vie. Mais aujourd'hui, je dois l'avouer, Hercule Poirot a gagné. Bon gré, mal gré, l'affection est née entre nous. Voilà, je vous ai livré quelques-unes de mes impressions sur Hercule Poirot. Elles sont fondées sur des relations vieilles de plusieurs années. Nous sommes amis et associés et je lui suis fort redevable sur le plan financier. D'un autre côté, c'est à moi qu'il doit son existence. À mes moments d'irritation, je lui signale que de quelques coups de plume ou de quelques frappes sur ma machine, je pourrais le supprimer définitivement. Il me répond alors à sa manière grandiloquente « Impossible de se débarrasser comme ça d'Hercule Poirot, il est bien trop malin. » Et ainsi, comme toujours, le petit homme a le dernier mot.
Ben oui, le petit homme a toujours le dernier mot. Donc, ils sont ridicules, ces personnages d'Agatha Christie. Enfin, un petit peu, hein, Miss Marple et puis Poirot. Mais quand même, elle les sauve à la fin. Ils sont intelligents, très intelligents.
Oui, ça, ils sont intelligents. Ils sont comme elle, en fait. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Miss Marple, d'ailleurs, bizarrement, a fait ses études en Florence avec des jeunes américaines. Ce qui fait qu'on ne sait plus où on en est par rapport au personnage. Poirot est une sorte d'esthète aussi un peu avec des goûts bizarres, et il a une copine, surtout une grande amie qui s'appelle Ariane Oliver, qui est romancière, qui est une grosse dame et qui est caricaturale, qu'on considère d'ailleurs généralement comme une version caricature d'Agatha Christie. Donc il y a quand même beaucoup de deuxième degré dans l'œuvre.
Alors, quels sont les décors, les atmosphères quand même chez Agatha Christie? Bon, on peut déjà noter qu'il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de bateaux, il y a pas beaucoup d'avions parce que bon, c'est pas encore tellement l'époque où il y a tant que ça d'avions, mais il y a beaucoup de trains. François Rivière, c'est important ça qu'il y ait beaucoup de trains.
Bah, elle aimait les trains. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on estimé, sachant que les Anglais, de manière générale, aiment beaucoup les trains. Hein, et effectivement, elle en a mis beaucoup. Puis surtout, le jour où elle a découvert l'Orient Express, elle a compris que c'était un réservoir absolument magnifique de personnages, un cosmopolitisme fascinant pour elle, qui est née au fin fond de l'Angleterre et qui, bien qu'ayant un père américain, avait quand même besoin de voir du monde, enfin, qui s'est ouvert l'esprit. En voyageant, effectivement, le train était idéal pour elle. Et puis tous ces lieux qu'elle a découverts en voyageant, en ayant l'idée d'utiliser ses voyages dans ses livres, ce que faisaient très peu d'auteurs de romans policiers qui passaient leur temps à écrire des livres, qui se passaient toujours dans un manoir au fin fond de l'Angleterre.
Il y en a aussi chez elle des manoirs au fin fond de l'Angleterre.
Oui, il y en a bien sûr. Oui, il y en a quelques-uns. D'autant qu'elle a été très marquée par la très belle maison de style gothique où vivait sa sœur, sa grande sœur Madge, qui avait fait un beau mariage. Elle, qui était très heureuse.
Elle n'a pas eu autant de succès littéraire, mais enfin.
Non, elle a écrit une pièce qui a été un petit succès, et puis après, ça a été fini, mais elle est devenue une femme au foyer, quoi. Au fond, Agatha Christie, elle est devenue romancière. C'est sûr, les deux sœurs Miller n'ont pas eu le même destin.
Ouais. Alors, il y a des maisons, il y a justement une maison qui est un petit peu spéciale, c'est la maison Biscornu, qui vient d'une comptine qui fournissait le titre, et même la trame d'ailleurs, hein, du roman. Cette comptine disait « Il était un bonhomme biscornu qui se promenait sur un chemin biscornu. Il était un chat biscornu qui attrapa une souris biscornue. Ils allèrent tout droit habiter dans une maisonnette biscornue. » On écoute un extrait de ce livre.
nous franchîmes une barrière là où devait se trouver avant-guerre une imposante grille d'entrée. Le patriotisme ou une cruelle réquisition avait eu raison d'elle. Nous remontâmes une longue allée flanquée de rhododendrons qui serpentait jusqu'au terre-plein de gravier devant la maison. Incroyable! Pourquoi 3 pignons? 11 pignons auraient été plus juste. Chose bizarre, la construction avait l'air curieusement déformée et je croyais savoir pourquoi. Elle était bâtie sur le modèle du cottage, mais gonflée hors de toute proportion. On avait l'impression de regarder une maison de campagne à travers de puissants verres grossissants. Avec ses poutres, ses colombages et ses pignons, c'était une maison biscornue qui aurait pu pousser au cours de la nuit comme un champignon. L'idée me paraissait toutefois assez claire. C'était celle qu'un restaurateur grec peut se faire de quelque chose d'anglais. Et ça se voulait la maison d'un anglais construite aux dimensions d'un château. Je me demandais ce que la première Mrs. Leonidas en avait pensé. On n'avait dû ni la consulter, ni lui montrer les plans. Selon toute probabilité, son exotique de mari avait dû lui en réserver la surprise. Avait-elle souri ou frissonné? Apparemment, elle avait vécu là très heureuse.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors ça, c'est un roman particulièrement d'atmosphère, François Rivière, l'atmosphère de cette maison qui fait quand même assez peur avec ses 3 pignons et plutôt baroque et puis qui devient la métaphore d'un drame. C'est un roman que vous aimez bien ?
C'est pas un roman que j'aime bien, c'est le roman que je préfère.
Ah. En fait.
Et je pense que c'est un, et je crois que c'était un des romans préférés d'Agatha Christie, parce que je l'ai relu il y a pas très longtemps, je l'ai lu plusieurs fois, mais je l'ai relu parce qu'elle y évoque une affaire criminelle intéressante qui a défrayé la chronique en Angleterre dans les années 20, au début des années 20, qui était l'affaire Thompson Bywaters, l'histoire d'une jeune femme qui empoisonne son mari pour plaire à son jeune amant, et l'histoire est évoquée tout le temps dans le roman, mais comme ça, je pense que pour le lecteur non averti, ça rime pas à grand chose, d'autant que dans la traduction actuelle en France, on a esquinté le nom d'un des personnages. Mais c'est un livre qui, dont là, on va pas dire la solution.
Non, pas à chaque fois quand même, sinon on va se faire vraiment taper.
C'est quand même assez, c'est quand même très surprenant et d'autant plus gonflé, si je puis dire, de la part d'Agatha, d'avoir fait ce personnage meurtrier. Mais c'est un roman où elle justement elle évoque ce que c'est qu'un roman policier. Je sais pas, c'est difficile à raconter. Et si on le lit, on comprend qu'elle met en question un peu le genre lui-même. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Là, sans revenir sur l'idée de, on a plus. Qu'elle écrivait des choses avec des intentions théoriques, hein. C'est pas du tout ça, mais elle fait vraiment un travail assez profond, enfin sur le genre, parce que c'est pas son premier roman, elle en a écrit déjà tellement avant qu'elle peut se permettre un peu de revenir comme ça sur le genre, et je pense que vraiment c'est vraiment un chef-d'œuvre dans le genre, écrit d'une manière très simple. Avec des personnages assez pittoresques, elle en profite pour se moquer des nouveaux riches, parce qu'elle avait ça un peu en ligne de mire. Là encore, le côté victorien qui ressortait, enfin, et c'est vraiment un très beau livre, ouais.
Mais justement, est-ce que vous avez l'impression qu'elle se comparait aux autres écrivains dans son genre, ceux qui l'avaient précédé, qui pouvaient être, je ne sais pas moi, enfin, du côté de Sherlock Holmes ou du côté même encore plus tôt, je ne sais pas, d'Émile Gaboriau, enfin des gens comme ça. Est-ce qu'elle se comparait à eux? Est-ce qu'elles étaient influencées? Comment ça se passait ces liens ou cette absence de liens?
Bah, le lien le plus direct, puisqu'elle l'a raconté hein, dans son autobiographie, c'est la lecture du meurtre, le crime de la Chambre jaune, du mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux. Bon, bien sûr, puisque sa sœur lui avait fait lien. Enfin, c'est un peu la légende. En revanche, bon, c'est sûr que Conan Doyle, ça l'a marqué. Hein, certaines des premières nouvelles qu'elle a publiées avec ou sans Poirot sont vraiment inspirées même de nouvelles des enquêtes de Sherlock Holmes. Mais elle a lu, bien sûr, plein d'autres auteurs, des auteurs victoriens. Avant elle, il y a eu pas mal de romancières qui publiaient des romans qu'on n'appelait pas policiers, mais qui étaient des romans d'intrigue. Il y avait une certaine Mrs. Wood qui avait écrit un livre qui avait fait un succès monstrueux. Il y avait Lady Audley, ce Lady Audley d'une autre romancière, Mary Elizabeth Braddon. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Ça n'a aucun intérêt, mais sinon, effectivement, elle n'était pas la première, c'est pas un perdreau de l'année, hein, Agatha Christie, dans le genre. Donc, elle savait très bien après quoi elle arrivait.
Il y avait Edgar Poe quand même aussi.
Edgar Poe, bien sûr, qu'elle a forcément lu, oui, même enfant, enfin, même adolescente, enfin, ça, tout le monde, enfin, je peux dire, tout le monde avait lu Edgar Poe, ça a marqué tout le monde. D'ailleurs, dans son premier roman, le Mystère de les affaires de Stice, le truc qu'elle utilise, c'est quelque chose qui est dans la lettre volée d'Edgar Poe. Enfin, donc voilà, bien sûr qu'elle était très très cultivée, mais ça c'est le propre de tous les auteurs et tous les grands auteurs de romans policiers, c'est d'être totalement déjà très instruit de l'histoire du genre. C'est quand même une grande famille, hein, la littérature policière.
Alors, justement, cette famille, elle s'appréhende souvent par le cinéma. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il est possible que beaucoup de gens aient connu tous ces auteurs dont on vient de parler, et en particulier Agatha Christie, grâce à des adaptations. Qu'est-ce que, à titre personnel, vous pensez des nombreuses adaptations qui ont été faites, par exemple, de alors Ils étaient 10 ou Deep Tea Negro, ou du fameux Crime de l'Orient Express. Est-ce que vous avez des adaptations à nous conseiller, et pour quelles raisons?
Écoutez, moi, j'aime bien la première version de Deep Tea Negro, de René Clair, qui est vraiment qui est d'époque, enfin, qui a été tournée en 45 avec des acteurs, notamment les acteurs anglais Hollywood, qui donnent vraiment une espèce de reflet d'époque. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein. Ça se saurait. Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, avec un acteur qui est quand même, qui vaut largement celui qui fait maintenant la gloire de la série télé anglaise.
Anthony Perkins?
Non. Qui est, pardon?
C'est pas Anthony Perkins?
Non, je cherche son nom, justement, j'ai un peu de problème. L'acteur qui joue dans qui n'a joué qu'une fois, Hercule Poirot, dans le Crime de l'Orient Express. Enfin, bref.
Bon, enfin, c'est pas grave.
Et voilà, tout le monde le trouvera. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu plein de films, il y a eu tellement de films. Enfin, on en a fait beaucoup, la télévision, beaucoup, évidemment, mais le cinéma, je crois qu'il y a encore une nouvelle version de Mort sur le Nil qui va passer. Bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion de parler un jour, même plusieurs fois, avec Peter Ustinov, qui m'avait dit « j'ai jamais lu un seul roman de cette bonne femme », et qui a fait un espèce de personnage, Hercule Poirot, qui est totalement caricatural. Bon, il avait mis son talent ailleurs, Ustinov, mais... voilà, on l'a utilisé beaucoup. Il y a eu des versions de Miss Marple qui terrorisaient littéralement la pauvre Agatha Christie avec une anglaise, une actrice anglaise qui par ailleurs était une très bonne actrice, qui s'appelait Margaret Osterford, que Agatha Christie comparait à un chien de chasse, enfin tellement elle la détestait.
Bon, enfin, il y a beaucoup en effet de films et d'adaptations qu'il faut.
Il y a à boire et à manger. J'avoue franchement que on a un peu de mal à s'y retrouver pendant très longtemps d'ailleurs.
Et les auditeurs feront leur tri. Merci beaucoup François Rivière. Pour aller plus loin, on peut se procurer par exemple votre livre Agatha Christie, Duchesse de la Mort aux éditions du Masque, ou alors plus récemment Agatha Christie, La romance du crime à La Martinière. C'était La Compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Alexandre Dang.